Le balado Production laitière vous expose des connaissances scientifiques grâce à des rencontres avec des chercheurs, des producteurs et des conseillers passionnés de leur métier. Une initiative du CRAAC en collaboration avec Novalet et Lactanet qui vise à vous expliquer des éléments clés de récentes recherches scientifiques afin d'en faciliter l'adoption dans vos pratiques courantes à la ferme. Dans cet épisode, nous parlons des mycotoxines. Jean-Philippe Laroche est agronome et conseiller dans l'équipe d'innovation et développement chez Lactanet. Il nous explique de quoi il s'agit.
Alors, une mycotoxine, c'est une substance toxique qui est produite par des moisissures. On dit que c'est des métabolites secondaires qui vont être produits dans certaines conditions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas des métabolites qui sont essentiels au fonctionnement de la moisissure. On pense plutôt que c'est une forme de mécanisme de défense pour ces moisissures-là, qui pourrait leur permettre d'assurer leur croissance dans un environnement donné. On va d'abord assister à divers problèmes de santé chez la vache. Donc, ça peut être une enflure du pied, ça peut être des mammites, diarrhée, hémorragie intestinale, ça peut même aller jusqu'à la mort. C'est évident aussi qu'on va constater une baisse de la productivité. On peut aussi voir des problèmes de reproduction. Donc, au final, pour le producteur, ça a un impact économique important parce qu'effectivement, on va voir une baisse importante des revenus, mais aussi une augmentation de certains coûts. On peut penser aux frais vétérinaires, mais aussi au coût des additifs qui vont servir à limiter les effets négatifs sur les vaches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces additifs-là, sont pas donnés.
Mais où se retrouvent donc ces mycotoxines?
En fait, c'est assez simple. On va les retrouver à peu près à n'importe quel endroit où des moisissures vont être en mesure de pousser. Dans le cas des vaches laitières, c'est certain qu'on peut les retrouver dans plusieurs de leurs aliments qu'on va leur servir, mais surtout en particulier dans l'ensilage et les grains. Alors, c'est pas possible de savoir si un aliment contient des mycotoxines de façon visuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut voir de la moisissure sur notre aliment, mais ça veut pas dire que la moisissure va avoir produit des mycotoxines dans ce contexte-là. À l'inverse, on peut aussi voir un aliment qui est en apparence sain, mais qui va contenir des moisissures et aussi des mycotoxines. Donc, ça prend absolument une analyse en laboratoire pour en avoir le cœur net. On peut échantillonner directement l'aliment. Par contre, étant donné que les mycotoxines, c'est pas réparti de façon uniforme dans l'aliment, c'est vraiment localisé, ça prend un échantillonnage qui est extrêmement rigoureux. Donc, on parle d'échantillonner plusieurs repas sur plusieurs jours. On peut aussi faire une analyse de sang des vaches qui ont consommé l'aliment. À ce moment-là, la vache, directement, elle va sous-échantillonner elle-même l'aliment. Et ce qu'on va chercher dans le sang, c'est des métabolites qui sont associés à la présence de mycotoxines dans l'animal. L'ensilage, c'est l'aliment qui va être le plus propice à la formation de mycotoxines parce que c'est un aliment qui offre des conditions idéales pour les moisissures. Donc, on parle d'un environnement assez humide avec une présence importante de glucides non structuraux, par exemple des sucres, l'amidon. Puis aussi, étant donné que c'est un aliment qui est consommé en très grande quantité par les bovins laitiers, ça va vraiment être la source la plus importante de toxines dans la ration des animaux. Puis je vous dirais que dans les cas auxquels j'ai pu assister, c'est surtout l'ensilage de maïs qui est une source importante du problème, parce que les plants de maïs sont susceptibles à des maladies fongiques qui, elles, vont entraîner la production de mycotoxines, mais aussi parce que l'ensilage de maïs, vous le savez, ça contient beaucoup d'amidon, beaucoup de sucre. Donc, encore une fois, c'est des nutriments qui sont intéressants pour les moisissures.
Monsieur Laroche nous explique ce qu'il faut faire lorsqu'on détecte ce problème sur sa ferme.
La première étape, quand on constate un problème de mycotoxines sur la ferme, c'est de trouver une solution au problème dans l'immédiat. Alors, à ce moment-là, c'est important de travailler avec son agronome et son médecin vétérinaire. C'est évident qu'on va essayer de traiter les symptômes qu'on observe chez les animaux, mais on peut aussi essayer de jeter l'aliment qui est contaminé, si on l'identifie, et si on peut se le permettre. Si on peut pas se le permettre, on peut essayer de diluer cet aliment-là dans la ration pour baisser la concentration de mycotoxines. Et si ça, c'est pas suffisant non plus, on peut aussi utiliser des additifs qui vont limiter les problèmes qu'on observe chez les animaux. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est probablement la plus importante, mais elle n'est pas toujours réalisée, c'est de trouver, d'identifier la cause du problème et de corriger la situation dans l'avenir pour qu'on n'ait plus à subir ce genre de problème-là sur la ferme.
L'agronome nous donne quelques conseils pour éviter d'avoir des mycotoxines.
La prévention des problématiques de mycotoxines, ça se fait en trois étapes, du champ jusqu'à la reprise de l'ensilage. Donc, au champ, c'est important d'avoir une bonne rotation des cultures, parce que quand on a une mauvaise rotation, c'est-à-dire des espèces qui se suivent et qui sont sensibles aux mêmes maladies, on a beaucoup plus de chances d'avoir ces maladies-là. Si on n'est pas en mesure sur la ferme, pour des raisons X, Y, Z, d'avoir une bonne rotation, il faut absolument enfouir les résidus avec un labour entre les espèces qui sont sensibles, parce que les champignons ou les moisissures qui vont causer des problèmes vont se retrouver sur ces résidus-là. Et si on les enfouit pas, ben ils vont avoir le champ libre pour contaminer votre culture l'année suivante. Ça, c'est probablement le point le plus important de prévention. Le deuxième, je dirais que c'est de choisir des cultivars ou des hybrides qui sont adaptés aux conditions locales, mais aussi résistants aux infections fongiques. Alors, à ce point-là, je vous invite à contacter votre semencier qui va pouvoir vous aider. On peut aussi fertiliser adéquatement et gérer adéquatement les mauvaises herbes et les ennemis de culture. Donc ça, c'est d'autres points qui vont contribuer à rendre votre plant de maïs moins stressé et plus apte à résister aux infections fongiques. Pendant la récolte, donc ça, c'est la deuxième étape, ben il faut s'assurer de minimiser la contamination de l'ensilage par le sol. Il faut savoir que le sol, dans le fond, c'est une source importante de moisissures. Il faut aussi éviter une récolte trop tardive pour l'ensilage de maïs parce que ça a été démontré maintes fois que c'était un facteur important dans la présence de mycotoxines. Et il faut minimiser le temps entre la récolte et l'entreposage. Pourquoi? Ben parce que dans ce laps de temps-là, notre ensilage, ben il est humide, il contient beaucoup de sucre et il contient de l'oxygène. Donc ça, c'est une recette idéale pour la croissance des moisissures. Finalement, la dernière étape, c'est au niveau de l'entreposage et de la reprise. Le mot-clé à retenir ici, je vous dirais que c'est oxygène. L'oxygène, c'est une molécule qui est essentielle pour la croissance des moisissures. Donc si on limite l'oxygène rapidement puis qu'on maintient cet anaérobie-là, on va s'assurer de stopper la croissance de ces moisissures-là. Il y a d'autres éléments qui peuvent aider, évidemment, comme la descente rapide du pH en ayant des pratiques idéales pour l'ensilage. Et finalement, au niveau de la reprise, bien évidemment, il faut éviter que l'ensilage ne chauffe, parce que quand ça chauffe, bien, c'est un problème d'oxygène, puis ça nous indique une grosse croissance de micro-organismes, dont des moisissures, qui peuvent potentiellement produire des mycotoxines. Alors, si on respecte les méthodes de prévention à ces trois étapes-là, bien, on va vraiment s'assurer de minimiser le risque qu'on ait des problèmes de mycotoxines à la ferme.
Julia Ferland est productrice et actionnaire à la ferme Ferland et Frères à Compton. Elle a déjà été aux prises avec un problème de mycotoxines et pense qu'il est important d'en parler davantage.
Les mycotoxines en production laitière, souvent, ça engendre des problèmes qui sont quand même importants dans un troupeau. On peut avoir des problèmes de reproduction, des problèmes digestifs, mais le problème avec les mycotoxines, c'est qu'ils sont difficiles à identifier. On pense qu'on en a, puis on n'est pas sûr, on fait des tests, les résultats sont jamais concluants à 100%, ben dans mon cas en tout cas. Donc je trouve que c'est mystérieux, on ne sait jamais si on en a des toxines ou on n'en a pas. C'est important d'en parler parce que ça vient toujours aussi à l'idée de quelqu'un, quand on a un problème, on se dit « j'ai peut-être des mycotoxines ». Mais si on n'en parle pas, on ne sait pas quel test qu'on peut faire aussi avec ça.
Madame Ferland nous explique ce qu'elle a fait pour valider qu'elle avait bel et bien un problème de mycotoxines sur sa ferme laitière.
Nous, on a eu deux épisodes de mycotoxines sur deux années différentes avec des signes qui étaient différents les deux fois. La première année, c'était plutôt des signes du système digestif. J'avais des vaches en lactation qui avaient des diarrhées. C'était pas toujours les mêmes vaches, puis c'était pas à tous les jours. Ensuite, l'autre année, j'ai eu des signes, mais c'était des signes comportementaux. C'était quand les vaches étaient en chaleur, ils montraient des beaux signes de chaleur, sauf que c'était excessif, puis ils se blessaient. Donc, c'était deux signes différents, mais les deux fois, par exemple, la performance des vaches n'était pas à ce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit. On était à 2 kilos de moins par vache par jour. Donc, la première année, quand on avait eu les problèmes du système digestif, on a fait des analyses dans la ration. Donc, pendant 7 jours, on a pris un échantillon de nos rations, on les a congelées et après 7 jours, on mélange tout ça et on prend un échantillon qu'on envoie au laboratoire. La deuxième année, on a commencé par faire la même chose, les tests d'analyse dans la ration. Puis ensuite, vu que le résultat était limite, on a décidé d'essayer de calculer la donne qui est dans le sang des vaches. Donc, celle-là, on prend un échantillon de vache, puis la même journée, on a pris nos prises de sang puis on les a envoyées au laboratoire.
La productrice nous donne quelques trucs pour réduire les risques de mycotoxines.
Bien, après ces deux épisodes de mycotoxines, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste toujours à l'affût quand on a un problème dans le troupeau. On se met toujours que la mycotoxine peut être une des raisons pour qu'on ait un problème. Puis ensuite, c'est surtout au niveau de la régie des slow fosses qu'on fait attention. C'est autant quand on entrepose notre ensilage, donc on fait une bonne compaction. On essaie d'avoir des ensilages qui sont une bonne matière sèche, qui sont pas trop matures, qui sont jeunes, donc ils vont mieux fermenter. On essaie aussi de faire une très bonne compaction lors de l'entreposage. On met des plastiques de chaque bord des murs du silophose et sur le dessus pour éviter que l'air rentre dans l'ensilage. On utilise aussi un antitoxine de façon préventive dans nos rations toujours. Puis aussi, à la reprise dans les bunkers, on fait attention de toujours enlever les pourritures qui pourraient se trouver sur le dessus du silophose pour ne pas les mettre dans l'alimentation des vaches.
Elle termine en nous disant de ne jamais hésiter à demander de l'aide.
Je pense que quand on suspecte un problème de mycotoxine dans notre troupeau, les premières personnes à approcher, c'est toujours notre nutritionniste. Eux, c'est des personnes qui savent qu'est-ce qu'il va falloir faire comme test, surtout. Et aussi en parler avec notre vétérinaire, parce que des fois, il y a des mycotoxines qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des animaux.
Merci à Jean-Philippe Laroche et Julia Ferland pour leur participation à ce balado. Le balado Production laitière du CRAAC a été réalisé grâce à la collaboration de Valérie Bélanger, coordonnatrice au transfert chez Novalet, et Catherine Larrivé-Bazinet, conseillère en transfert du savoir chez Lactanet. Production laitière est rendue possible grâce au financement du programme Innovation agroalimentaire en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture.